Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Palabre en forêt, la fameuse émission Lozère-Gardoise sur Radio Barthès 107 FM. J'accueille les acolytes. Bonjour Margot.
Salut, salut.
Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Et nous sommes ravis parce qu'aujourd'hui nous produit...
Véro.
La grande Véro. Voilà. Et nous accueillons une invitée donc, qui nous vient d'Avignon aujourd'hui, c'est Safa Jourani. Elle est chargée d'enseignement, elle est doctorante également, donc elle fait une thèse en gestion des ressources et géographie et elle est employée par le CNRS à l'unité mixte de recherche espace. Bonjour Safa.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le CNRS, sur quoi il travaille et quelles sont les activités de du coup, l'unité mixte de recherche espace ?
Donc, avant de commencer, tout d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup pour l'invitation, mais aussi pour l'intérêt que vous portez à tout ce qui est Cévennes, forêt, aussi les ressources naturelles. Et en ce qui concerne le CNRS, ou ce qu'on appelle le Centre National de la Recherche Scientifique, qui est le principal organisme public de la recherche en France, en gros, le CNRS, il a comme mission générale de mobiliser toutes les sciences afin d'affronter les défis actuels, donc soi-disant, par exemple, le changement climatique. Donc la mission, elle consiste à la fois à identifier, mener et aussi coordonner des recherches utiles, non seulement pour la science, mais aussi pour le progrès technologique, aussi social et culturel. Donc, il se distingue par une approche interdisciplinaire, ce qui en fait un acteur qui est unique dans la recherche. Donc, il ne se base pas sur une seule discipline, mais un mix des disciplines avec plusieurs domaines tels que la biologie, l'écologie, la physique, aussi les sciences humaines. Et il peut aborder des problématiques complexes comme le cas de mon domaine, qui est le changement climatique et la gestion des écosystèmes forestiers. En gros, le CNRS, il rassemble ce qu'on appelle les chercheurs, donc soi-disant les doctorants, les post-doctorants, les docteurs, etc., de différents domaines autour des projets communs. Donc, le CNRS, par cette interdisciplinarité, il favorise l'innovation, mais aussi le développement des solutions durables et éthiques, qui va prendre en compte les réalités des différents secteurs. Ensuite, en ce qui concerne l'UMR Espace, notre laboratoire Espace, qui est étude des structures et des processus d'adaptation et de changement de l'espace, il était créé en 1997. Et lorsqu'on dit UMR, c'est l'unité mixte de recherche qui est associée le CNRS à trois universités de la région PACA, province Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a Avignon Université avec laquelle je travaille, il y a Aix-Marseille Université et l'Université Côte d'Azur à Nice. À part ces trois universités, il y a aussi une implantation à Saint-Christol-les-Alès dans les Cévennes où on peut trouver des mesures hydrosocio-météorologiques sur les extrêmes hydrologiques et la ressource en eau qui sont collectées depuis plus de 40 ans. Donc ces données-là, ils vont constituer une base très forte afin d'évaluer l'évolution de la ressource dans la région Cévenole. Toujours restant sur l'UMR Espace, donc il est composé d'une cinquantaine de membres permanents, mais il accueille également ce qu'on appelle des doctorants, comme dans mon cas. Bien que la majorité de l'équipe soit composée des géographes au sens fort du terme, mais il réunit également des sociologues, des hydrologues, des économistes, et bien sûr aussi des informaticiens et aussi même des psychologues. Donc cette diversité, elle va permettre au laboratoire d'aborder de façon multidisciplinaire et transdisciplinaire les interactions à la fois entre l'espace, la nature, la société, avec un focus sur le bassin méditerranéen, mais aussi sur d'autres régions. Donc en gros, les travaux ils portent sur des thèmes bien sûr variés, tels que les morphologies urbaines, les effets du changement climatique et aussi des spécificités des territoires côtiers. Donc en gros, l'équipe de l'UMR Espace, ils utilisent des outils d'analyse spatialisée, mais aussi de modélisation afin de traiter les dynamiques territoriales à différentes échelles. Par exemple, une échelle très petite, l'échelle locale, celle des logements, mais même, il peut arriver à des échelles continentales. Mmh. Et pour conclure sur la question du laboratoire espace, donc notre laboratoire, il accorde une importance particulière au partenariat avec les acteurs locaux, comme les collectivités et les associations. Par exemple, on peut citer le PTB du Gardon, le PNT Cévennes, et aussi plusieurs communes comme par exemple Branou-les-Taillades ou les Plantiers, où il y a un suivi par exemple des parcelles par drone ou l'installation des laboratoires vivants ou ce qu'on appelle par terme scientifique des Living Labs, afin de garantir que ces recherches aient bien sûr des retombées concrètes. Donc on ne va pas faire de la recherche juste sur papier, mais on va partir vers la vie réelle et la vie concrète.
Merci. Et justement, comment es-tu arrivée donc au CNRS ? Quelle formation as-tu suivie ? Et tu connaissais déjà les Cévennes ? Et voilà, qu'est-ce qui t'a motivée à réaliser ta thèse ?
Donc en gros, après l'obtention de mon baccalauréat en sciences mathématiques, j'ai accédé à une école d'ingénierie qui est l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc. Donc, je suis diplômée en tant qu'ingénieure agronome spécialisée en gestion des ressources en eau et sol. Et ensuite, j'ai poursuivi un master en changement climatique et gestion de territoire à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier et aussi l'Université de Paul Valéry. Et c'est durant cette formation et lors d'un stage, pour être plus exact, j'ai découvert les Cévennes. En gros, cette région, elle était trop marquée avec ce stage puisque j'étais fascinée non seulement par son histoire, marqué par les activités anciennes comme l'exploitation minière et aussi l'abandon de certains terres agricoles, mais aussi par la diversité de son occupation du sol entre les logements urbains, la zone agricole, les zones forestières et aussi les produits locaux comme par exemple les pommes des Cévennes, l'oignon doux, etc. Donc en gros, mon parcours, il m'a permis de développer des compétences variées qui s'inscrivent dans la gestion des ressources naturelles, soit en sol ou en eau. Je fais de la cartographie, du machine learning, de la modélisation, que ce soit pour analyser l'évolution des filières agricoles ou pour évaluer l'impact à la fois sociétal ou environnemental des pratiques sur la ressource en eau. Donc ce sont d'ailleurs ces outils qui vont m'aider à mieux comprendre les défis auxquels les Cévennes font face, notamment en termes d'extrêmes climatiques comme par exemple les crues et les inondations. Et aussi, ces observations durant ces stages m'ont poussé à m'interroger, à me poser la question. Comment peut-on maintenir cette richesse de production, mais tout en assurant la protection de la ressource en eau? Donc, c'était cette question qui m'a vraiment conduit à entreprendre une thèse avec l'idée d'apporter des réponses concrètes à la fois pour moi-même, mais aussi pour les acteurs locaux en utilisant une approche intégrée qui mêle l'ensemble de mes compétences et surtout en analysant l'impact du changement climatique sur cette région-là.
Ok, super. Et du coup, tu as déjà un peu répondu à la question, ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer de manière vraiment, on va dire, abordable, parce qu'on est loin d'être des spécialistes, mais concrètement, en quoi ta thèse va consiste déjà, parce que je crois qu'il y a déjà eu quelques résultats, et voilà pourquoi ce sujet, etc.
Comme j'ai oublié de le rappeler, donc ma thèse elle est intitulée « Dynamique des milieux semi-naturels et ressources en eau ». Quel impact et quelles pratiques pour une gestion adaptée du changement climatique. Ouais. Et je l'ai bien choisi car elle me permet tout d'abord de répondre aux questions que j'ai posées durant le stage, comme j'ai déjà décrit, mais aussi de combiner plusieurs de mes intérêts, notamment la gestion de l'eau, les interactions avec les espaces, et aussi bien sûr l'impact du changement climatique. Donc cette aventure que j'ai commencé le 1er décembre 2024, donc je suis maintenant doctorante en deuxième année, il se concentre sur la région des Cévennes, et aussi sur la récurrence des événements climatiques extrêmes. Avec plusieurs sites, par exemple, on peut citer Valescure, le Mont Lozère et Branou-les-Taillades, pour avoir des mesures hydrométéorologiques sur la ressource en eau. Donc l'objectif principal de ma thèse sera de comprendre comment les pratiques de gestion influencent la dynamique de ces espaces ou de ces milieux semi-naturels, et ensuite évaluer leur effet sur la ressource en eau. Donc, par la fin de la thèse, j'espère bien aider les acteurs locaux à anticiper les évolutions futures, mais aussi à mieux gérer ces espaces face aux défis posés par le changement climatique. Donc, pour moi, personnellement, c'est un sujet qui est à la fois, bien sûr, complexe, mais trop passionnant, car il touche à la fois à la préservation des ressources en eau, mais aussi à l'adaptation des pratiques de gestion. Vous voulez que je détaille plus sur la méthodologie ou sur les volets
ou... Oui, les grandes étapes de tes travaux, ouais.
Ouais, bien sûr. Donc, en gros, ma thèse, il est décomposé sur trois volets méthodologiques. Et chaque volet, il va aborder l'étude des milieux semi-naturels sur une échelle temporelle, si on peut le dire. Donc tout d'abord, on a une approche qui est dite rétrospective, où on va viser à analyser l'évolution de ces milieux-là, mais en prenant en compte les facteurs qui vont déterminer ce changement, comme les conditions climatiques et aussi les caractéristiques hydriques. Donc ce volet-là, il va nous permettre de comprendre mieux comment ces milieux ont changé au fil du temps, mais aussi d'identifier les déterminants principaux de ces transformations. Ensuite, on mène un autre volet qui est institutionnel, donc parce que cette fois-ci, on va intégrer plutôt la société en utilisant ce qu'on appelle les SMA ou la modélisation multi-agent, qui va nous aider à explorer les interactions entre les acteurs locaux ainsi que entre ces acteurs et leur environnement. Donc l'objectif de ce volet-là, c'est plutôt la simulation et comment anticiper les pratiques de gestion future. Enfin, s'il nous reste du temps, parce que la thèse, ça dure 3 ans et parfois même 4 ans maximum, donc on a un volet prospectif. Donc ce volet prospectif, il va venir pour nous aider à modéliser les effets conjoints à la fois du changement climatique ainsi que des pratiques de gestion sur la ressource en eau dans la région. Donc en gros, avec une vision générale de la thèse, l'objectif final sera de proposer des solutions adaptées afin de gérer l'évolution des milieux et aussi préserver la ressource en eau.
Justement, nous, on avait déjà fait une émission sur la thématique eau et forêt. C'est un sujet qui interroge beaucoup dans les Cévennes. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu vois l'impact de la forêt sur la ressource en eau et le cycle de l'eau ?
Donc, en ce qui me concerne, on ne peut pas dire qu'il y a une réponse soit noire, soit blanc. Et il est toujours fréquent d'entendre que les forêts épuisent la ressource en eau, il a un grand effet négatif. Mais en réalité, elles jouent un rôle qui est complexe, mais souvent bénéfique dans le cycle de l'eau. Donc en gros, elles régulent le ruissellement en ralentissant l'écoulement de l'eau. Et aussi, elles favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol par le potentiel racinaire. Ce qui réduit bien sûr les risques des inondations et favorise dans une autre part, la recherche des nappes phréatiques. Donc, si les forêts, le côté plutôt négatif, utilisent une partie des précipitations pour l'évapotranspiration, mais elles contribuent d'une autre part à stabiliser le sol, réduire l'érosion et aussi améliorer la qualité de l'eau en filtrant les sédiments et les polluants. Donc, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas dire que c'est noir ou blanc, car les forêts et l'influence positivement le cycle de l'eau par divers mécanismes, comme j'ai déjà cité. En gros, dans la région, la région des Cévennes, où les cycles des inondations et des sécheresses sont amplifiés par le climat méditerranéen, les forêts seront plutôt un atout qui est essentiel afin de préserver un cycle hydrologique stable et aussi durable. Et pour les personnes qui favorisent plutôt l'agriculture au détriment de la gestion forestière, je voudrais juste vous rappeler que sans un équilibre et des choix de gestion des sols appropriés dès aujourd'hui, nous risquerons à terme d'épuiser toutes les ressources et de le regretter après. Donc, la gestion durable des forêts est cruciale afin d'éviter ces impacts négatifs à long terme.
Ça fait du bien à entendre. Alors, justement, on est un petit peu impatients. Est-ce que tu as déjà des résultats par rapport à tes travaux de recherche ?
Ok, donc vu que je suis en deuxième année, donc en première année, j'ai rédigé, je suis en train de finaliser plutôt un article de synthèse, vu que ma thèse, ça sera pas une thèse classique, mais ça sera ce qu'on appelle une thèse sur article, donc il y aura plusieurs articles articulés dans un seul document. Et le premier article de synthèse, qui est en cours de rédaction, il parle sur l'impact des forêts méditerranéennes sur l'hydrologie. Donc on va prendre plusieurs articles qui ont été déjà écrites sur l'évolution ou l'impact des forêts méditerranéennes sur la ressource en eau. Et on va synthétiser les résultats pour avoir ce qu'on appelle un article synthèse. Donc cet article-là et ce choix étaient surtout pour avoir une vision sur le déroulement et aussi les choix méthodologiques de la thèse. Et il y aura bien sûr d'autres articles qui vont explorer le reste des volets méthodologiques, comme j'y explique. Ok ? Mais dès mes premières recherches qui ont été très flashées sur mon article synthèse, j'ai trouvé que, tout d'abord, les forêts méditerranéennes plus spécifiquement, ils jouent un rôle crucial dans la réduction du ruissellement et de l'érosion. J'ai trouvé que certains auteurs disent qu'elles interceptent jusqu'à 25% des précipitations annuelles, ce qui peut diminuer l'érosion dans certains bassins versants jusqu'à 90%. Et sur le volet, tout ce qui est changement climatique, etc., donc bien sûr, on aura une diminution de ruissellement vu l'augmentation de la température, de l'évapotranspiration et aussi de l'afforestation qui s'ajoute de plus en plus. Mais la bonne gestion va nous s'assurer à diminuer à la fois la réduction du débit vers la fin, mais aussi la réduction de risque d'inondation et des crues. Je tiens aussi à poser un petit point sur la bonne gestion ou la gestion adaptée de ces forêts. Donc, par exemple, l'installation de ce qu'on appelle les fascines ou, par terme scientifique, les easy barriers, qui va nous réduire l'impact du perte de sol, surtout après les incendies. Et c'est ça.
Super. Ben, merci beaucoup pour ces premiers résultats. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu travailles, peut-être notamment en acteurs qu'on pourrait connaître dans les Cévennes? Est-ce qu'il y a des partenaires un peu avec qui tu partages tes travaux?
En gros, déjà, ma thèse, elle est dirigée par une équipe diversifiée et complémentaire qui est composée de mon premier encadrant, Mathieu Vignal, un maître de conférence et expert en biogéographie et dynamique spatio-temporelle de la végétation. Il y a aussi Pierre-Alain Héral, qui est professeur à l'IMT d'Alès, qui est spécialisé en hydrologie et géomatique, et finalement en directeur de thèse, Didier Josselin, qui est spécialiste de l'analyse spatiale et des cycles. Donc, bien sûr, on peut voir la complémentarité entre l'ensemble des encadrants. Et cette complémentarité, elle va m'apporter un soutien précieux, mais bien sûr aussi un cadre intellectuel riche et interdisciplinaire pour mieux mener la thèse. Donc, bien sûr, autre que l'UMR Espace et l'Université d'Avignon, ma thèse, elle bénéficie d'une collaboration avec plusieurs institutions. Parmi elles, on peut citer le ZABR, le Zone Atelier Bassin du Rhône. On a aussi OSCAR, qui est l'Observatoire des sciences de l'univers. On a aussi l'Observatoire hydrométéorologique méditerranéen des Cévennes Fivrées. Mais bien sûr, comme des projets soutenus par l'ANR. Cette coopération, elle va me permettre bien sûr d'intégrer des perspectives variées et aussi de renforcer la portée de nos recherches sur les milieux. Bien sûr, d'autres que ces collaborations-là, on parle aussi des forestiers et de gestionnaires des forêts sur des sites comme par exemple le Mont Lozère. On a des parcelles sur Branoul-et-Taillette. Donc on parle d'un travail collaboratif avec les gestionnaires de forêts pour comprendre comment ça évolue tout au fil du temps et aussi avec les pratiques.
Merci. On rappelle l'IMT d'Alès, c'est l'école des mines. Voilà, elle est plus connue.
Exactement. Là.
Et l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Merci. Vas-y. Et oui, merci. Merci, Safa, pour toutes tes explications. Et c'est vrai qu'on t'a rencontré donc en Cévennes, hein, c'était au printemps dernier, à l'occasion d'un séminaire qui était organisé par l'association Forêt Méditerranéenne. Et on en profite pour les remercier parce que, voilà, c'est une association donc, qui permet en fait d'apporter des connaissances, de mettre en réseau, de partager voilà, les initiatives entre plusieurs territoires. Et ils traitent voilà, ce sujet vraiment en profondeur, hein, l'eau et la forêt. Et il n'y a pas tant d'acteurs qui le font en France. Donc, ben voilà, on les remercie. et on en profite aussi pour te demander si tu aurais un petit mot forestier à ajouter. On le demande à chacun de nos invités.
Ben, en gros, pour moi, la forêt, elle est bien plus qu'un simple écosystème. Parce qu'elle représente un patrimoine essentiel qui nous incombe de préserver face aux effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, il est crucial que chaque personne prenne conscience de ces enjeux et adopte des pratiques qui sont plus durables, comme par exemple l'agroécologie et la forestation. Certes, bien sûr, ça peut réduire les rendements économiques à court terme, mais c'est un choix qui est indispensable afin de protéger nos ressources, à la fois en sol et en eau, à long terme, pour les générations futures. Et je retiens aussi à remercier l'association de la forêt méditerranéenne parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont passionnées par ce sujet. Cela me donne plutôt l'espoir et aussi la motivation de voir qu'il y a une grande communauté qui est engagée et qui partage cette vision de durabilité et de respect pour la nature. Donc pour le dernier mot, ça sera plutôt qu'ensemble, nous pouvons faire la différence.
Parfait. Merci beaucoup, Safa. Merci pour... pour ta présentation de tes travaux de recherche, de nous avoir parlé de l'eau et de la forêt. Avant de faire la petite chronique d'Emeric, on vous propose une pause musicale et je crois que tu avais quelque chose à nous suggérer.
Oui, c'était « Qui sera, sera ». Cette musique est surtout la partie où il parle de futur, que « Whatever will be, will be ». Donc « Qui sera, sera ». Et si on voit le terme à partir du changement climatique et vision forestière, donc si... En rappelant, on ne gère pas bien nos ressources naturelles, on serait dans un grand regret. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette musique.
Et c'est parti, merci.
Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée à qui l'on vient chanter. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. On vit grandir et puis rêver. La jeune fille et sa maman disait, que sera, sera, demain n'est jamais loin. Laissons l'avenir venir, que sera, sera, qui vivra, verra. Quand vint l'amant de ses amours, la demoiselle lui demanda, es-tu fidèle jusqu'à toujours? Et le garçon chanta, que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir, que sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera,
et animaux des bois.
Un contact avec la nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Alors maintenant on écoute Emeric Sulmont qui est toujours garde moniteur au parc national des Cévennes.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Quelques années déjà.
Alors, ta petite rubrique, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui?
J'avais envie de vous faire part d'une émotion bryologique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une émotion bryologique.
Non. C'est une émotion qui mousse?
Voilà, c'est une émotion qui mousse. Ce n'est pas une émotion quand on boit de la bière. Non, c'est une émotion que j'ai eue cet été en parcourant les forêts du Forez.
Ah, le bon pays,
et
alors.
Et qui concerne les mousses. Les mousses, les vraies, celles que j'aime beaucoup.
Quelle
chauvine. C'est sur lequel on peut se faire des pique-niques agréables et doux. Mmh. Et donc, cette émotion, ça consistait en quoi? C'est un pur hasard. Nous étions en train d'explorer avec un collectif d'études des mousses du Massif Central. La forêt de la Loge, je ne sais pas si certains connaissent, côté Loire, pas très loin de Pierre-sur-Aude, qui est le sommet du Forez. Ça ressemble un petit peu au Mont-Lozère, mais avec des forêts nettement plus...